Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus à cette conférence qui n'a failli pas avoir lieu, étant donné que ma machine ici présente est morte il y a 2 heures. Bon, elle était sous Windows, alors il faut croire que dans un lieu comme ici, c'est un truc qui passe pas en fait. Donc du coup, merci à Henri et au Blender User Group Toulousain qui ces 2 dernières heures ont bataillé pour essayer de transférer le plus de fichiers sur cette machine qui est la machine d'Henri, de manière à ce que je puisse quand même vous raconter des trucs. Il y a certaines scènes Blender que j'ai pu, donc il va falloir que je fasse son, mais c'est pas très grave. Donc là, pour ceux qui seront là pour les 2 prochaines heures, ce sera une conférence qui sera en 2 parties. Une partie qui sera donc sous Blender et qui passera un peu en revue les outils qui permettent de faire ce qu'on appelle des effets visuels, c'est-à-dire des trucs où ça tombe, ça explose, ça fait de la fumée, ce genre de choses. Et puis, dans la 2e heure, en fait, on s'intéressera à un nouveau logiciel libre dédié au compositing, qui est très très jeune, hein, qui s'appelle Natron ou Natron, ça dépend comment on le prononce, et qui est fait par un développeur français, qui est quelqu'un qui est à l'INRIA à Grenoble. Et donc, c'est un logiciel auquel je m'intéresse de plus en plus, premièrement parce que j'y crois, et puis parce que le développeur est vachement actif dans son développement. Donc, on regardera un petit peu ça par la suite. Hop. Je me prends les pieds dans les fils. Donc, on verra donc dans la 2e partie que, je vais vous montrer ça tout de suite, en espérant que il ne m'arrive pas encore tout un tas de cochonneries. Et si? Hop là, non, il veut pas. Bon, je vais aller chercher autrement alors. Alors, je vais aller le chercher autrement. Donc pour vous montrer un petit peu quelle était la philosophie du truc à la base, donc ce qu'on fera plutôt dans une 2e partie, c'était de travailler sur une sorte de plan. Enfin, ça, c'est surtout ce qu'on fera pour la partie compositing. Hop, voilà. L'idée à la base, enfin mon idée initialement, c'était d'avoir en fait un plan où je faisais exploser ce truc-là et puis ça partait dans tous les sens, mais ça serait jamais rentré en fait dans le temps qui nous serait imparti pour les 2 conférences. Donc j'ai préféré me baser sur quelque chose d'un peu plus simpliste entre guillemets, sachant que tous les éléments qui permettent de constituer ce truc-là ressemblent quand même à ça. Donc dans le terme simpliste, il y a quand même un petit peu de boulot. Donc, on peut voir ici, par exemple, que quand le vaisseau se lève, il y a de l'espèce de fumée qui sort en dessous, des choses comme ça. Et donc, le but, c'est d'essayer de faire un petit tour de tout ce que vous pourrez trouver dans Blender, en tout cas, les parties les plus accessibles, pour essayer de faire des effets visuels. Donc, je vais essayer de faire ça avec un peu des scènes que je vais faire à la volée, étant donné que les miennes sont mortes et enterrées avec ma machine là. Donc, on va partir de formes simples. Un des premiers trucs qui a été intégré dans Blender, qui permettait de faire des effets visuels, était le système de particules. Et le système de particules, en fait, il n'a pas arrêté d'évoluer ces derniers temps en rajoutant à chaque fois des petites fonctions de ci, de là, qui parfois d'ailleurs étaient très peu notifiées dans les nouveautés ou même parfois dans la doc. Mais il y a quand même eu des petites améliorations sympathiques. Comment marche un système de particules? C'est pas très très compliqué. En fait, ça consiste simplement à attacher, excusez-moi, un système à un objet quelconque. Alors là, j'ai pris une forme simple histoire de pas surcharger la machine et d'avoir quelque chose d'assez réactif, hein, parce que c'est le problème quand on fait des conférences sur ce genre de choses, on a tout de suite des temps de calcul faramineux, donc on essaye d'avoir quelque chose d'assez réactif. Lorsqu'on crée un système de particules, en fait, on va se retrouver avec, c'est ici une commande, on va se retrouver avec donc des sortes de points qui vont sortir de la surface comme ceci. Et ces points, en fait, vont être générés entre une certaine image de départ qu'on va trouver ici avec le start et une image d'arrivée avec le end. Blender fonctionne un petit peu de manière différente par rapport à d'autres logiciels où on va définir en fait un nombre de particules qui va être généré par exemple toutes les secondes ou toutes les images. Lui, il a quelque chose qui est à la fois embêtant dans certains cas, mais très avantageux dans bien des cas, c'est que vous déterminez en fait le nombre de particules qui va exister sur la totalité de l'animation. Ça veut dire que si à un moment vous utilisez par exemple ces particules pour générer des débris lors d'un impact ou ce genre de choses, vous allez savoir que entre le début de l'animation et la fin de l'animation, par exemple dans le cas présent, vous aurez 1000 débris. Alors que si vous travaillez avec d'autres logiciels, par exemple comme Maya ou 3ds Max ou ce genre de logiciel, en fait, ils fonctionnent sur un système où vous générez des particules calcule à la volée toutes les secondes, toutes les images. Et donc, il vous faut calculer, en fonction de ce qui va se passer dans la scène, combien vous en aurez à la fin. Si à un moment, vous devez constituer, par exemple, je vous donne un exemple sur quelque chose que j'ai travaillé dernièrement, on m'a demandé de reconstituer un bâtiment avec des photos, en fait, qui étaient mises sur des plaques. Et j'ai utilisé le système de particules pour ça. On m'a dit, voilà, il y a à peu près 8500 employés, il faut 8500 photos. Bah, du coup, je savais exactement combien j'avais d'éléments à la base pour reconstituer le bâtiment. Et on m'a dit, on ne veut pas deux fois les mêmes, hein, sinon ils vont se fighter entre eux, il y en a un qui va être jaloux. Enfin, voilà. Donc, j'ai utilisé le système de particules pour ça. Système de particules, pardon, qui peut être généré donc, sur la surface. On peut voir par exemple ici que... Alors, c'est un petit peu compliqué à voir parce que c'est quand même des points sur des lignes, hein, donc c'est pas super, super facile de le voir, mais ces points sont générés sur la surface, alors qu'on a aussi la possibilité de le générer, vous le voyez maintenant ici, à l'intérieur de la surface. C'est-à-dire que si je lui demande par exemple de générer 1000 particules en une image, vous pouvez voir que ici, à l'intérieur, notamment dans cette zone-là, hein, on le voit en tournant autour, j'ai des particules qui sont générées à l'intérieur. Si je les génère sur la surface, vous voyez la différence, hein, cette fois-ci, ce n'est que sur la surface externe de l'objet que je vais pouvoir générer des particules. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on veut, par exemple, faire un plan avec une destruction ou ce genre de choses, on essaye généralement de passer outre ce problème qu'on a avec la 3D, qui est la notion de volume. C'est-à-dire que quand on fait de la 3D, hein, on fait de la 3D dite surfacique, c'est-à-dire que l'intérieur de l'objet n'existe pas. Par conséquent, si à un moment, vous voulez exploser cet élément qui va se trouver ici, par exemple, ici en surface, on a la possibilité de lui dire que on veut que chaque particule, par exemple, embarque un petit morceau de l'élément. Il doit y avoir un raccourci qu'il n'aime pas. Voilà. Et donc, va venir disloquer l'élément ici. On se rend compte que la surface très fine de la surface externe va poser problème. C'est pour ça qu'on a la possibilité de générer en fait en parallèle. Je vais avoir ici un premier système de particules. On va lui dire, par exemple, qu'on veut générer en parallèle un autre système de particules. Alors avant ça, je vais lui demander que la rotation de mes particules va suivre, en fait... Il faut vraiment que je trouve ce raccourci qui... Voilà. Je vais demander, en fait, à mes particules de suivre leur vélocité, c'est-à-dire la direction dans laquelle elles vont. D'accord ? Et je vais propulser ces particules un tout petit peu plus loin, de manière à ce que l'explosion soit plus violente. D'accord ? Si maintenant je veux en parallèle générer un autre système de particules, par exemple ici à l'intérieur, alors celui-là je vais l'appeler par exemple comme particule externe, excusez-moi, et je vais créer un deuxième système de particules, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Regardez bien, on a ce qui s'appelle dans Blender les modificateurs, c'est des espèces de fonctions, on va dire, externes qui se rajoutent ici sur les éléments. Eh bien, on se rend compte que j'ai un premier système de particules, ce premier système de particules explose en fait la surface, et ici je vais avoir un deuxième système de particules. Si je laisse ces paramètres par défaut ici, on va se rendre compte que ce deuxième système de particules, en fait, se base sur la géométrie avant qu'elle soit explosée. C'est-à-dire qu'il garde, en fait, la structure telle qu'elle était. On verra qu'après, il y a des fonctions qui permettent de dire « j'aimerais que tu te bases sur la structure après qu'elle soit explosée ». Ça vous permet, par exemple, à partir de chaque débris, de régénérer des particules qui vont régénérer des particules, et ainsi de suite, pour avoir des animations un petit peu plus complexes. Là, ce que je veux faire ici, c'est que je vais temporairement, regardez bien ici, arrêter les particules. Oups, je dois cliquer sur un truc qu'il ne faut pas. Et ce deuxième système de particules, je vais lui demander aussi d'être propulsé de manière beaucoup plus rapide. Donc là, je vais l'appeler part int comme particule interne. Et cette fois-ci, je vais lui demander d'être généré à l'intérieur du volume. À l'intérieur du volume, avec une force un petit peu plus costaud. Voilà. Et de manière beaucoup plus rapide, c'est-à-dire entre l'image 1, par exemple, et l'image 4, de manière à ce que ça explose comme ça. Ici, je vais augmenter la durée de vie des particules. La durée de vie des particules, ça va me permettre en fait de dire qu'elles vont durer, par exemple, 250 images. Étant donné que j'ai une animation qui fait 250 à la base, elles vont vivre pour toujours jusqu'à la fin de l'animation. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est que je vais en parallèle ici générer un objet quelconque, une sorte de cube, hein, pour l'instant, et je vais lui dire que ces particules qui se trouvent à l'intérieur, ici, au moment de la génération, hop, voilà, ne vont plus être cette fois-ci des points, mais vont être remplacés par un objet qui va être le cube. Ainsi, au moment où je vais appuyer, vous voyez, sur la touche play, chaque particule va être remplacée par un petit cube, d'accord ? Et je vais avoir la possibilité de lui dire que cette taille, donc la duplication de ces cubes, va varier dans le temps. Donc ça va me permettre d'avoir quelque chose comme ça. Ok ? Maintenant, un simple cube ici, c'est un petit peu bateau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauver ma scène déjà. Parce que c'est pas la journée qui est... Hein? Donc, voilà. Déjà que je suis parano à la base, mais alors là, aujourd'hui, je vous avouerai que j'ai monté d'un cran. Hein. Voilà. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais appeler une fonction en fait sous la forme d'un add-on. C'est des fonctions qui se rajoutent en fait dans Blender. Une fonction qui s'appelle le selfracture et qui a la particularité en fait de pouvoir casser des objets en petits morceaux. On a la possibilité de le travailler avec plusieurs choses. On peut tracer l'endroit où ça va se casser, mais on peut aussi en fait choisir la manière dont va être cassé cet élément avec un autre système de particules. Donc ça représente toujours la base de l'élément que je vais générer en fait en interne, que je vais générer en une seule image et je vais générer, pour pas que ce soit trop long, allez, on va dire 100 morceaux. Voilà. Le fait de faire ça et de me mettre au début de l'animation, je vais lui dire que je veux casser cet élément selon ce système de particules, c'est-à-dire que chaque petite particule ici à l'intérieur va générer un fragment à l'intérieur du cube. Ça va me permettre de lui dire en fait que je veux générer voilà, une centaine de fragments. Je vais demander à Blender de calculer et on se retrouve, vous voyez ici, avec exactement le même objet qui est ici, sauf que cette fois-ci, il est en petits morceaux. Okay. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner tous ces éléments. Je vais en faire un groupe que je vais par exemple appeler débris, afin de mieux m'y retrouver. Je retourne à l'endroit où il y avait tout à l'heure mon élément qui contenait l'explosion, d'accord, qui jusqu'à maintenant est remplacé par des cubes. Et je vais lui dire que cette fois-ci, je ne veux plus le remplacer par des cubes, mais je veux le remplacer en fait par un groupe d'objets, donc le groupe qui va s'appeler débris. Et je vais lui demander d'aller chercher au pif dans ce groupe d'une centaine d'objets, avec le bouton pick random, qui veut dire va chercher de manière aléatoire. Je vais lui demander en fait d'aller chercher, vous voyez, tout un tas de débris qui vont être générés ici, cette fois-ci, à l'intérieur de l'objet. Donc en combinant les deux, ça va vous permettre en fait d'avoir ici un premier système de particules que j'ai désactivé pour l'instant, voilà, qui va générer en fait la surface de l'élément. Et un deuxième système de particules qui va cette fois-ci générer, je vais légèrement réduire la taille des éléments qui se trouvent à l'intérieur pour qu'on puisse les voir un petit peu mieux. Voilà. Voilà, vous voyez, on a cette fois-ci des éléments qui vont être générés donc de manière surfacique. Alors, c'est toujours un petit peu embêtant d'avoir des surfaces comme ça assez planes. Et c'est la raison pour laquelle on a parmi les modificateurs ici quelque chose qui s'appelle, donc je vais désactiver pour l'instant ce deuxième système de particules. On a quelque chose ici qui s'appelle le solidify. Le but du solidify, vous le voyez, ça va être en fait de donner une sorte d'épaisseur aux objets afin justement de casser un petit peu ce côté très fin de la surface externe. Je vais le remonter pour qu'il agisse avant le deuxième système de particules, étant donné que ce sont des choses qui sont complètement excentrées. Et en le relançant, cette fois-ci, vous voyez que, et surtout en le réactivant, voilà, je vais avoir cette fois-ci quelque chose qui va être beaucoup plus détaillé. Donc en augmentant le nombre de particules à l'intérieur de l'émetteur, actuellement, vous voyez, sur le deuxième système de particules, j'en ai 1000. Mais si je génère ici, par exemple, 2500, je vais en avoir beaucoup plus à l'intérieur. Un autre élément qui est très très intéressant, parce que lorsqu'on génère 2500 particules au lieu de 1000 particules, ça demande bien sûr à la machine de travailler beaucoup plus. Hein, d'accord ? On a un système ici qui est très pratique, qui s'appelle en fait les children, donc les enfants. Hein. Et le boulot des children, si j'essaye de voilà, cacher ce deuxième truc-là, le boulot des children, en fait, ça va être de dire que chaque ici petit débris qui va se trouver là, va en fait générer dans son environnement, dans son giron, d'autres particules qui cette fois-ci ne sont pas simulées, mais juste rajoutées en fait, tout autour. D'accord ? C'est un agrégat de particules qui sont accrochées à la particule centrale, et seule la particule centrale en fait est, elle, simulée, et les autres sont simplement bah, copiées autour. Ça, ça va vous permettre aussi d'augmenter, alors je vais juste réduire un peu le nombre d'éléments qui se trouvent dessous, histoire que la machine ne meure pas. Ouais. Surtout pour Henri, parce que c'est sa machine. Puis on en a encore besoin jusqu'à demain soir. Après, je m'en fous, je m'en vais, moi. Mais lui, voilà. Donc, ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est qu'on va avoir, du coup, notamment en réduisant encore un petit peu la taille des éléments, voilà, on va se retrouver, vous le voyez, avec énormément de particules et de polygones qui vont se trouver à l'intérieur. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est qu'on pourrait se dire que s'il y a beaucoup plus d'éléments, on va avoir des temps de calcul beaucoup plus longs. En fait, non. C'est une des particularités justement de ce système, c'est que ça va utiliser ce qu'on appelle les instances dans le système Blender, le système de rendu. Et les instances, en fait, ça va vous permettre Oups, alors oui, il faut peut-être lui dire d'utiliser le GPU, je pense. Voilà. Parce qu'en plus de ça, on m'a prêté une machine qui n'était pas pourrie. C'est bien. Merci. Donc ça va permettre en fait d'envoyer au système de rendu uniquement mais sans petit débris de base, qui se trouve là, hein, vous voyez, et de dire à la carte graphique, ben, en fait, tu vas simplement les dupliquer à certains endroits sans recalculer la totalité de la simulation. Ça va nous permettre du coup de lui demander, par exemple, vous voyez, de calculer quelque chose qui est pas du temps réel, mais on va dire interactif, d'accord? Là aussi, je vais couper pour l'instant juste le premier système. Ah, la machine souffre.
Ça va encore.
Ça va encore. Voilà, donc on va l'avoir autour. Voilà. Donc vous voyez, on va avoir ici la possibilité, je vais rajouter une petite lampe supplémentaire. Voilà, histoire de voir un peu plus la géométrie. On va avoir énormément d'informations. Vous voyez, j'ai mis ça en place en même pas 5 minutes, hein, d'accord? Ça va vous permettre d'avoir énormément d'informations visuelles lorsque vous voulez générer justement un crash ou ce genre de choses. OK? Donc je vais réduire, pour pas faire trop transpirer la machine. Je vais réduire ici, hop, bah, je vais carrément réduire le nombre d'enfants. Voilà, voire pas en mettre du tout pour l'instant, c'est pas très très grave. Voilà. Et donc, lorsqu'on veut faire une explosion comme ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est que si on a par exemple un élément qui va se pointer ici, voilà, imaginons une météorite ou un truc comme ça, hein, qui va arriver là-haut. On va essayer de simuler en fait l'impact afin de coordonner. Je vais l'amener très rapidement, voilà. Je vais animer cet élément-là. Hop, voilà. On va essayer de coordonner en fait la naissance de ces deux particules afin que ça éjecte au moment du point d'impact. Le point d'impact, c'est aux alentours de l'image 16. Donc je vais dire en fait à mes systèmes de particules que je veux commencer à l'image 16 et finir par exemple à l'image 17. On va peut-être commencer un tout petit peu avant, voilà. Entre l'image 16, 15 et l'image 17. Et on va dire pareil pour les particules intérieures. Alors, il faut d'abord donner le end et ensuite donner le start, parce que sinon le start est bloqué par le end. Donc vous voyez, ça va vous simuler en fait une espèce d'impact comme ça. Et le but, ça va être de lui dire en plus que lorsqu'il est émis de ce côté-là, on voit qu'on a les axes ici en bas, Y et Z, qui sont donc Z vers le haut et Y de manière horizontale et vers la droite. On va lui dire qu'on veut émettre, alors je vais commencer par l'un des deux, hein, par exemple particule externe. On va commencer par émettre. Oups, je suis perdu, pardon. Émettre d'abord dans l'horizontalité. J'ai réactivé mes deux systèmes de particules, voilà. De manière à ce qu'au moment du point d'impact, on a une espèce de jet comme ça vers l'avant. Et on va faire la même chose du coup pour les particules intérieures. C'est-à-dire qu'on va lui dire que, puisqu'on a émis de moins 5 vers la gauche, on va émettre de moins 5 aussi vers la gauche. Et puis on va émettre de 2 vers le haut, histoire de lancer des particules vraiment très très hautes. Comme ça. OK? Si cette fois-ci je remonte un tout petit peu cet élément et que je mets en dessous un sol. Un bon conseil quand vous faites des sols, évitez les plans. Parce que si vous faites des plans, il y a de fortes chances pour que la moitié en fait, des particules passent à travers, en fait. Donc essayez toujours d'avoir une légère épaisseur que vous pouvez générer d'ailleurs avec le Solidify qui permet, je vous le disais tout à l'heure, de rajouter de l'épaisseur. Et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais placer cet élément-là ici, lui dire que cet élément va rentrer en collision. Et cette fois-ci, vous voyez que vous avez les éléments qui vont rebondir. On remarque ici par exemple que les particules extérieures, eux, ont une durée de vie plus petite que les particules intérieures. Ce qui fait qu'au bout de 50 images, en fait, elles s'arrêtent et elles se figent dans leur position, comme ça. Ça peut être pratique si à un moment vous voulez par exemple faire une sorte d'arrêt sur image et que vous voulez vraiment figer les particules comme ça. Ça peut vous permettre, vous pouvez vous permettre de le faire comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter, hop, la durée de vie de ces particules. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais empêcher, ou en tout cas fortement limiter, les rebonds de ces particules, de manière à ce que ça ne fasse pas trampoline sur le sol. Un autre truc que je vais rajouter aussi, c'est les paramètres de friction, c'est-à-dire les paramètres de frottement sur les particules, de manière à ce que quand elles touchent le sol, vous voyez, elles sont ralenties. OK? Je fais encore. Hop. réduire les paramètres de rebond. Voilà. OK. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'on va pouvoir simuler pour générer des débris et calculer en fait une image qui va contenir que les débris, qu'on va pouvoir éventuellement recompositer, c'est-à-dire rajouter après dans un autre logiciel. Alors ça peut être Blender, mais on le verra tout à l'heure par exemple comment ça se passe avec Nitron. Et ça, c'est ce qui va permettre de générer, vous le voyez, les débris extérieurs. On peut en rajouter des caisses. Ça, Blender arrive quand même, somme toute, assez facilement à les calculer. Maintenant, si on veut que cet élément, par exemple, qui va arriver ici, trace une espèce de traînée dans le sol, on va utiliser des techniques à peu près similaires, sauf que cette fois-ci, au lieu d'utiliser uniquement des particules, on va utiliser ce qu'on appelle des corps rigides, ou des rigid body, excusez-moi, en anglais. Hop, voilà. Je vais donc ici pré-craquer mon élément comme tout à l'heure. Donc je vais aller chercher mon add-on qui s'appelle le cell fracture et qui est déjà chargé. Vous voyez, comme je n'ai pas redémarré Blender, il est toujours chargé. Je vais générer des particules à l'intérieur. Je vais me permettre cette fois-ci d'en générer un tout petit peu plus, 250 par exemple. Et c'est très important de les générer à l'intérieur pour que les fragments soient vraiment volumiques. OK ? Allez, on va monter à 300, c'est jour de fête. Je sauvegarde. Ouais. Non. Voilà. Je vais donc fracturer cet élément. Je vais lui demander de... Alors, il y a un truc, vous verrez, pour ceux qui n'auraient jamais utilisé le cell fracture, quand vous l'avez chargé, en fait, vous sélectionnez votre élément et vous cliquez sur le cell fracture. Et par défaut, vous avez un truc qui s'appelle le show progress real time. C'est-à-dire que vous voyez au fur et à mesure où il crée les petits éléments, vous les voyez apparaître et disparaître. Si vous décochez ça, ça calcule à peu près 80 fois plus vite. Ne le cochez jamais, d'accord ? Je vois même pas pourquoi c'est coché par défaut, en fait. Chose très importante aussi, vous voyez, j'ai demandé 300 fragments, mais en fait, par défaut, il est limité à 100. Donc, si vous le laissez à 100, en fait, vous aurez jamais plus que 100. Donc, faites gaffe aussi à ça, hein, d'accord ? Et donc, je vais lui demander qu'il me calcule ces fragments-là. La machine d'Henri est un monstre, donc c'est super. J'ai 300 fragments comme ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, cette fois-ci, ne pas utiliser le système de particules, mais je vais demander, en fait, à toutes ces pièces d'agir comme des corps rigides. Donc, je vais lui dire, en fait, il faut juste que je le retrouve, excusez-moi. Ça doit être dans Physics, voilà. Je vais demander, donc, à ces corps d'être des corps rigides, c'est-à-dire que si maintenant je les lâche, sur quoi je... Ah oui, c'est ça. D'accord. Si je les lâche, maintenant, ils tombent. OK. Si je place maintenant, par exemple, ici, une espèce de sphère en dessous, et que je dis que ça aussi c'est un corps rigide, mais un corps rigide passif, donc qui n'est pas soumis à la gravité, vous voyez que ces éléments, en fait, vont tomber dessus et Blender va calculer à la volée l'animation. OK ? Maintenant, ce que je veux faire, donc ça, c'est dans une autre partie, dans une autre scène. Généralement, j'essaye toujours de travailler, en fait, dans des scènes distinctes de manière à ne pas surcharger la machine et avoir un feedback assez rapide. Ce que je veux faire, c'est envoyer en fait une espèce de sphère là-dedans ou toute autre chose qui pourrait représenter par exemple la météorite, et je veux la cracher à l'intérieur pour que les fragments donc, qui sont dans le sol se fassent arracher. Généralement, les gens qui font ça, enfin j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient ça, essayent de placer juste une plaque dans le sol par exemple, hein, d'accord, c'est-à-dire que, ou un cube dans le sol, en tout cas on figure le sol via une autre surface comme ça, voilà, je vais le mettre ici. Et je vais le placer, par exemple, en paramètres rigides. Mais vous pouvez voir que lorsque je vais, par exemple, prendre cet élément et le bouger, si j'y arrive. Non. Ouais, j'appuie sur une touche qu'il ne faut pas, je pense. Voilà. Vous voyez, je peux interactivement lui péter la tête, hein, comme ça. Mais comme on peut le voir ici, le problème qu'on a, c'est que lorsqu'on va déplacer les éléments comme ça, il n'y a rien qui les retient sur les côtés. Vous voyez qu'ici, ça déborde sur le côté. Donc, mon conseil du jour, c'est que si vous voulez faire une simulation comme ça, déjà replacer les éléments, ce sera pas mal, c'est que si à un moment on a véritablement une vraie météorite qui se crache sur Terre, fait scientifique avéré, hein, vous avez besoin d'avoir en fait des pièces qui vont être retenues par ce qui se trouve à l'extérieur du sol. D'accord ? Donc, créer de manière externe une espèce de container qui va vous permettre en fait, alors voilà, je vais le placer à peu près comme ça, et on va sélectionner la face supérieure, voilà, et faire une sorte de boîte, en fait. Une boîte qu'on va venir recaler ici. Voilà. et avec lequel on va venir encadrer les pièces. Alors après, est-ce que c'est tout prêt, est-ce que c'est pas tout prêt? De toute façon, généralement, quand on fait ce genre de simulation, on va calculer la simulation au moment de l'impact et au moment du compositing, c'est-à-dire quand on va en fait mélanger dans une seule image les images avant le crash et après le crash, on va en fait passer sur la face qui est craquelée au moment de l'impact. C'est-à-dire qu'avant, on va rendre en fait en 3D une image du sol qui n'a pas de craquelure et on peut même éventuellement, avec des masques, c'est-à-dire image par image, on va révéler progressivement en fait la craquelure dans le sol. Ça va vous permettre de ne pas avoir de problème de texture qui part en vrille ou ce genre de choses. Et là, vous voyez, ça va vous permettre en fait de venir contraindre les plaques, enfin les plaques, excusez-moi, les débris. Voilà. Donc vous allez voir que ça va se... Oups, ça ne va rien faire du tout. Voilà. Je définis donc cet objet en rigid body passif, de manière à ce que les fragments soient à l'intérieur. Donc là, je l'ai fait un petit peu plus grand, de manière à ce que vous puissiez voir la manière dont il est concaténé. Généralement, on essaye de le faire un petit peu plus précisément. Et là, regardez bien, ce qui est intéressant, c'est que si vous venez les compacter comme ça, vous voyez, vous avez vraiment une espèce de phénomène de pression qui fait que, au bout d'un moment, ça va déborder comme ça. Okay? Et c'est ça qui est très, très intéressant au moment de l'impact. C'est que si vous venez justement chercher une sphère, donc je l'ai peut-être déjà créée d'ailleurs. Oups, elle est peut-être dans l'autre calque, c'est-à-dire la dimension parallèle qui se trouve à côté. Là. Bon, bah, c'est pas grave, je l'ai peut-être virée, j'en sais rien. Je vais en recréer une autre. Voilà, ma météorite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Blender de projeter cette météorite. Alors, si on le fait avec des paramètres physiques, comme on l'a fait tout à l'heure pour les particules, c'est-à-dire je te lance dans telle direction, ce genre de choses, c'est pas toujours très pratique. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir en fait animer le début de l'animation à la main, c'est-à-dire lui dire c'est dans cette direction, d'accord? Et puis au dernier moment, une fois qu'on lui a indiqué la direction, on le lâche et on lui dit débrouille-toi et puis calcule le reste. Et ça, du coup, bah, vous pouvez le faire en mettant une première clé d'animation ici, c'est-à-dire en lui disant « c'est dans cette direction ». Donc vous allez lui dire « voilà, c'est comme ça ». D'accord. Ici, on peut voir que par défaut, en fait, Blender, alors ça va tellement vite qu'on a du mal à le voir, mais ça se voit quand même un petit peu, on a une espèce de ralentissement en fait, de l'élément, alors qu'une météorite ne ralentit pas avant de taper le sol, hein, généralement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de contrecarrer ce ralentissement en faisant une interpolation dite « ah oui, c'est vrai, ça ne marche pas ça, j'ai oublié ». Voilà. Donc une interpolation, vous voyez, avec une accélération et un ralentissement. Moi, ce que je veux, c'est avoir quelque chose de directionnel. C'est-à-dire, on ne ralentit pas, on fonce, on pète tout. D'accord? Et ma dernière clé, vous le voyez ici, en fait, est à l'image 7. C'est-à-dire que lorsque je vais, en fait, transformer, donc je vais revenir dans mon mode classique, je vais lui dire que cet élément est un rigid body, c'est-à-dire un corps rigide passif. C'est-à-dire que du coup, son boulot... Alors non, excusez-moi, je vais en faire un actif, merci, que je ne vous dise pas de bêtises, voilà. Mais par contre, je vais lui préciser qu'il est animé. Animé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, en fait, vous voyez, il suit mon animation, et comme l'animation lui dit de rester fixe à partir de cette image, bah, il ne bouge pas, quoi. Le truc, c'est que ce paramètre animé, en fait, bah, on peut l'animer, justement. C'est-à-dire qu'on peut lui dire dans le temps, tu es animé, puis tu n'es plus animé. Donc, tu redeviens un objet libre que je viens de lâcher. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer à l'image juste avant, en fait, la clé d'animation. On va lui dire « oui, tu es animé ». Donc, vous voyez, il devient jaune ici pour dire « oui, je suis animé ». Et puis, à partir du moment où on va le relâcher, on va décocher « animé », on va remettre une clé d'animation. Et ainsi, ça va vous permettre, vous voyez, de le projeter, en fait, ici. OK ? Là, le problème, c'est que l'élément qui se trouve là, bah, il tape contre chacun des fragments. Le problème, c'est que c'est un enfant de 10 ans contre un enfant de 10 ans, quoi. C'est-à-dire que chacun a la même force et puis bah, du coup, les fragments résistent. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est un grand troisième qui vient péter la tête à un enfant de sixième. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui dire qu'on va changer la masse de cet élément. Et là, vous voyez, vous avez dans Change Shape, dans Change Mass, vous avez tout un tas de valeurs prédéfinies, en fait. Donc, vous avez de l'or, du granit, de la glace, de l'acier, tout un tas de trucs comme ça, qui va vous permettre, en fait, de définir une masse beaucoup plus importante. Par exemple, la masse était préalablement à 1. Vous voyez, là, la masse est à 32 000 et quelques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça va se pointer, voilà. Vous voyez, là, vous embarquez tout sur votre passage. Donc, c'est juste une... Il faut trouver un rapport de force entre le gamin de 6e et le gamin de 3e, de manière à ce que vous sachiez en fait qui va s'en prendre plein la tête par rapport à la masse. Et vous allez pouvoir, du coup, vous voyez, avoir un rapport qui, en plus, au fur et à mesure, on peut le voir ici, hein, embarque les éléments. D'accord ? Vous voyez, l'élément avance et puis à un moment, est stoppé contre ce truc-là. Alors après, ça dépend comment vous allez placer vos éléments à l'intérieur, comment va être le container et ce genre de choses. Mais ça va vous permettre, vous voyez, de arracher le sol comme ça. Donc ça va vous permettre de générer des fragments, en fait, qui vont faire le gros de votre animation. Et puis par-dessus, au moment de l'impact, on va pouvoir générer donc, des particules avec des objets que vous allez recréer à droite à gauche, comme ce qu'on a fait préalablement. Ça va pour tout le monde jusque-là ? Ok. Donc maintenant, ce qu'on voudrait faire, je vais le faire sur un élément en particulier, mais on peut le faire sur plusieurs éléments. Ce que je voudrais faire, par exemple, c'est que chaque élément qui va, en fait, sur la touche CTRL TAB, donc je pense. Chaque élément qui va en fait être dégagé lors de cet impact va être lui aussi générateur de particules. De manière à ce qu'au moment de l'impact, c'est-à-dire à partir de l'image 14, si je ne m'abuse, non, que je ne vous dise pas de bêtises. Alors il faudrait le calculer à peu près. Maintenant ! Voilà, l'image 12. Donc à partir de l'image 12, en fait, il va générer des particules à partir de, pendant 200 images, allons-y. Et ces particules vont avoir une durée de vie assez importante. Hein, je m'entends parler maintenant. Voilà. Merci. Donc voilà, à partir de 12, on avait dit, me semble-t-il. Voilà. Et donc, au moment de l'impact, vous voyez que celui-là, du coup, va générer des particules. Okay. Particules qui, elles aussi, du coup, peuvent utiliser les fragments qu'on avait, par exemple, définis dans la première scène. Parce que ces fragments qui sont ici, d'accord, vous pouvez très bien, en fait, les sélectionner, en refaire un groupe et puis lui demander que ces fragments servent comme fragments des particules. Donc, ça veut dire que chaque élément, du coup, qui va se retrouver derrière ici, si j'arrive à l'attraper, voilà, va, en fait, régénérer des particules derrière. OK ? Ça va ? Ces particules, vous voyez que jusqu'à maintenant, elles ont en fait un mouvement assez tranquille, d'accord ? Ça ne se fait pas trop perturber par l'impact, hein, d'accord ? Première chose que vous pouvez faire, vous pouvez très bien lui dire que l'objet en fait qui va les générer, donc celui-là, va projeter les particules dans un certain sens. Vous voyez que ça vous permet du coup d'avoir des particules qui partent dans la direction de l'objet. Là, le paramètre de 1 lui dit c'est 100% de la direction et de la vitesse en tout cas. Si vous le passez à 0,25, par exemple, vous pouvez voir que ça prend la direction, mais ça reste un petit peu en retrait. Donc là aussi, il faut trouver le bon rapport pour que les particules, vous voyez, sont emmenées de l'autre côté. Si maintenant, ce sont des particules volatiles, comme par exemple de la poussière ou des choses comme ça, donc quelque chose qui ont une masse très faible, mais que vous voulez les embarquer, vous avez ici tout un tas de force fields, c'est-à-dire en fait des champs de force, d'accord ? Vous avez le vent, vous avez les vortex pour faire des tornades, vous avez des trucs vachement lourdingues à configurer, comme les harmoniques et les charges qui, par exemple, simulent des attractions magnétiques entre les éléments, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se tourner autour, se répulser, ce genre de choses, mais le Leonard Jones aussi fait ça, mais c'est pas super fastoche à configurer, mais ça fait des trucs vachement bien. Et vous avez ici aussi, alors vous voyez un qui a été rajouté, qui est complètement passé inaperçu en fait, mais que j'utilise beaucoup, c'est le smoke flow, c'est-à-dire qu'on va voir après comment par exemple générer de la fumée avec le système de fumée. Et en fait, depuis à peu près, je dirais la 2.69, si je me souviens bien, donc il y a 2-3 versions, on peut maintenant demander à ce que la fumée pousse les particules, en fait. Donc on peut faire une simulation de fumée, lui dire c'est la fumée qui embarque les particules. Voilà, je l'ai vu nulle part dans les papiers qui dit « Ah, c'est nouveau ». C'est en allant chercher, je l'ai vu en bas, j'ai dit « Tiens, c'est marrant ». Donc n'hésitez pas à fourrer votre nez à droite à gauche, comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version qui sort, parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Donc, ici, je vais générer beaucoup plus de particules pour qu'on puisse les voir. Par exemple, 5000. OK. Voilà, elles sont là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer sur ces particules. Elles agissent de manière globale sur les particules. Ici, un paramètre turbulence. Donc, paramètre turbulence, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre, en fait, vous voyez, de rajouter ici des champs de force sur les particules qui vont les envoyer dans tous les sens. Généralement, quand on a un impact comme ça avec beaucoup de fumée et qu'il y a un objet qui est passé à travers, ça crée des sortes de volutes et les particules en fait suivent des sortes de chemins, d'accord, une sorte de flux d'air. Et ça, justement, il y a une option dans le paramètre turbulence avec un paramètre qui s'appelle le flow que vous allez pouvoir retrouver assez souvent, qui est vachement pratique. Si vous l'activez à fond, vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, je vais revenir du début. Alors actuellement, ça fait des tout petits trucs, donc vous ne voyez pas grand-chose. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la taille en fait de ces champs de force. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir les visualiser. Par exemple, je mets une taille de 10. Non, je mets une taille de plus. Je mets une taille de 50. Voilà, on commence à les voir en dessous là. Il faudrait peut-être que je les sélectionne et il faudrait peut-être que je le monte en passant en global par exemple. Voilà. Alors vous voyez, à la limite, ce que je vais faire, je vais vous refaire sur une autre scène de manière à ce que vous puissiez voir ce que ça donne, parce que celui-là est vachement pratique lorsqu'on veut faire justement des éléments relatifs à la fumée. Hop. Je vais régénérer donc des particules à partir de là. D'accord. Et maintenant, je vais rajouter le force field, donc le champ de force de type turbulence. Et je vais lui dire que il a une force déjà assez balèze. Il a une taille assez balèze. Et en même temps, voilà. Et je vais augmenter la force. Et je vais augmenter surtout la durée de vie des particules parce qu'elles meurent très vite. Voilà. Et je vais augmenter leur nombre aussi. Voilà. Vous voyez le genre de truc que ça vous donne. Donc ça vous permet en fait, ça, j'utilise beaucoup ça quand je dois faire de l'habillage télé, par exemple, avec des éléments qui se disloquent pour aller reconstituer d'autres éléments, d'accord. Sachant que vous voyez qu'actuellement, comme j'ai activé ici le mode Global, voilà, la position en fait de ce petit point de référence définit en fait où vont se trouver les champs de force. Si maintenant, pendant qu'il est en train de le simuler, donc vous voyez, on commence à avoir des champs de force qui se dessinent, hein, par exemple ici, si je le déplace, alors excusez-moi, non, voilà, il faut désactiver le global. Vous voyez, si je le déplace, en fait, je décale ces champs de force, et donc ça va me permettre de créer des espèces de mouvements d'ondulation comme ça. D'accord. Alors gardez à l'esprit que ces particules, encore une fois, hein, si vous avez envie de les remplacer par autre chose, donc je vous le disais tout à l'heure, hein, par exemple, voilà, je vais recréer un cube ici, et je vais lui dire que je veux remplacer ça par un objet cube, avec une taille comme ça et avec une rotation en mode dynamique, de manière à ce que les cubes s'étirent. Vous voyez que du coup, je vais avoir une espèce de flot de cube, d'accord, qui va suivre le champ de force pour se décaler comme ça. Donc ça aussi, pour faire, vous voyez, des espèces de trucs un peu abstraits pour de l'habillage, où ça peut être vachement pratique. Okay. Un autre élément aussi qui peut être vachement pratique quand on fait ce genre de choses, c'est un champ de particules qui s'appelle le CADE, qui lui n'est pas dynamique, mais qui permet au moins, regardez, de morpher en fait un champ de particules en autre chose. Si vous prenez par exemple cet élément donc assez reconnaissable, somme toute, d'accord, oops, que vous générez un champ de particules là-dessus, un champ de particules qui va être en fait une espèce de modèle, donc on va générer aussi 5000 particules de ce côté-là, avec un zéro en plus, voilà. Et on va ensuite lui demander d'être en statique, c'est-à-dire qu'il ne va pas bouger, il va rester dessus. Voilà, donc vous voyez, lui, il ne bouge pas, et puis lui, il bouge. Et maintenant, ce que je vais lui demander à cet élément-là, c'est que je vais lui demander en fait de se déplacer. Donc chaque particule, il y en a 5000 d'un côté, 5000 de l'autre. Je vais demander à chaque particule d'essayer de trouver sa consoeur qui se trouve de l'autre côté. Et pour ça, je vais passer ce système de particules dans un mode qui s'appelle le CADE. Je vais lui dire, tu parles de mon système de particules. Donc vous voyez, un truc qui s'appelle particule système ici, et quand vous ne précisez pas le nom, c'est celui sur lequel on se trouve. Et ici, je vais lui dire, tu vas aller sur le système de particules de Suzanne. Et là, vous voyez, vous avez du coup les particules qui vont se déplacer. Alors, à quelle vitesse? Ben, ça dépend de leur durée de vie, en fait. Donc, plus elles meurent vite et plus elles vont se déplacer vite. Vous voyez, elles vont venir se placer sur la surface. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, elles ont une durée de vie de 50, donc 50 images. Et lorsqu'elles arrivent sur la surface, elles meurent et donc elles disparaissent. Mais on a deux options qui sont vachement intéressantes ici, qui sont planquées dans le fond, qui sont « died », c'est-à-dire celles qui sont mortes. Donc en fait, quand elles sont mortes, elles s'arrêtent et elles restent là. D'accord. Et « unborn », les non-nés, qui fait qu'au début, elles sont toutes sur cette première sphère, elles vont aller s'agglomérer sur l'élément qui se trouve là. Ça veut dire que si maintenant, vous voyez, je cache l'élément qui se trouve là, je vais avoir la possibilité en fait de reconstituer la forme avec des particules et donc des éléments tierces. Ça, ça peut servir notamment si vous avez besoin de faire une séquence comme celle de Spider-Man 3 où vous avez le Sandman, c'est-à-dire l'homme qui est constitué de sable. Bah, vous imaginez par exemple que votre homme, c'est une silhouette que vous avez faite en 3D et vous attirez du coup les particules qui vont tournoyer autour pour venir se mettre sur la surface. D'accord ? Vous pouvez générer ensuite en parallèle d'autres systèmes de particules qui, eux, ne seront pas en mode Cade, mais qui vont tomber de la surface et que vous allez calculer à part, de manière à ce que certaines particules soient attirées et entraînées par le modèle, et d'autres, par contre, qui seront bah, complètement libres et qui vont descendre de la surface. Ça va pour tout le monde ? Ok. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est particules. Il y en a encore tout un tas de possibilités, mais sachez que, du coup, en combinant ces techniques de... et rigid body qui permettent de calculer énormément d'éléments ensemble, enfin d'éléments dynamiques, c'est-à-dire qui ont une taille, qui ont une force, qui ont une masse. Hein, rappelez-vous la sixième et la troisième, et du coup et le rapport de force. Et en combinant du coup de l'autre côté des simulations de particules qui sont dynamiques mais qui sont en fait placées par le graphiste, parce que c'est toujours le problème quand on fait de l'animation dynamique, c'est que il faut avoir un certain contrôle quand même sur ce qu'on fait, d'accord ? Et vous avez toujours le réalisateur qui vous dit « moi j'aimerais que ça explose plus de ce côté-là ou plus de ce côté-là ». Et donc il faut avoir ce côté un peu bidouille qui vous permet de dire « je contrôle la manière dont partent mes particules de ce côté-là ». Si on prend le premier exemple par exemple qu'on a calculé tout à l'heure, on peut voir que le moment où c'est parti complètement de l'autre côté, vous voyez ici, c'est moi qui l'ai déclenché. On peut avoir des systèmes où on va détecter des collisions et émettre éventuellement des particules à ce moment-là en faisant beaucoup de bidouilles parce qu'il manque encore 2-3 petits trucs dans Blender pour ça qui existaient dans les très très vieilles versions mais qui n'ont pas été réintégrés dans le nouveau système. Mais dans la plupart des cas, on a toujours tendance à se dire que de toute façon, on veut générer des particules de cette manière, c'est-à-dire en ayant un certain contrôle. Néanmoins, parmi justement les options qui ont été rajoutées il y a quelques temps et qui sont un petit peu passées inaperçues aussi, on a par exemple la possibilité de générer des particules qui vont générer donc des maillages qui eux-mêmes vont générer des particules de manière automatique. Par exemple ici, on va avoir un premier système de particules assez rapide, à éjection rapide. Oups, enfin, éjection rapide, excusez-moi. Je me reprends. Voilà, presque rapide. On va y aller un peu, de manière un peu plus costaud. Voilà, il faut vraiment que j'arrête d'appuyer sur ce bouton. Avec une durée de vie beaucoup plus importante, on va en générer un petit peu moins, genre 250, voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais générer en parallèle une autre sphère un petit peu moins définie. Voilà, histoire de ne pas faire mourir la machine d'Henri. Je vais mettre ça dans une dimension parallèle à côté. Je vais lui demander de remplacer donc ces particules par l'objet qui va se trouver ici, l'agrandir un peu, d'accord ? Voilà. Je vais réduire encore un petit peu, histoire qu'on voit bien ce qui se passe. Je vais en mettre 50, voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais générer un deuxième système de particules ici, d'accord ? Le problème, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on crée un deuxième système de particules, quand on génère une partie en interne et une partie en fait en externe, ce système de particules va se référer en fait sur ce qu'est l'objet au moment de la génération de la particule. C'est-à-dire qu'il se rebase en fait sur cet élément qui va se trouver ici. D'accord ? Mais vous avez en fait une nouvelle option qui va s'appeler ici le Use Modifier Stack. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les modifier stacks, c'est la pile des modificateurs, c'est-à-dire en fait les modificateurs qui s'enquillent les uns sur les autres ici. Ça aussi, c'est pareil, ça a fait deux lignes dans qu'est-ce qu'il y a de nouveau, et en fait, pour moi, c'est une grosse révolution. Donc, ce truc-là, ça va vous permettre de dire en fait, j'aimerais que tu regardes avant, en fait, dans les autres, enfin, dans les modificateurs, à quoi vont ressembler les particules. Et là, j'ai oublié de faire un truc. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de faire un truc. Je n'aurais pas dû le faire comme ça. Je me suis trompé, excusez-moi. Je vais en fait générer, voilà, ça y est, je me souviens. J'ai des trous. Hein. Hop, hop, voilà, je vais retourner ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais en fait générer à partir de là, utiliser, excusez-moi, un modificateur qui s'appelle le Particle Instance, qui est ici. Et il va me demander quel système de particules tu veux dupliquer. Là, c'est le système inverse. On est parti de la forme qu'on voulait dupliquer. On a demandé en fait à l'élément de, vous voyez, venir chercher la position des points et venir dupliquer cet élément-là. Là aussi, vous voyez, on a des trucs comme unborn et died, c'est-à-dire qu'avant d'être né, tous les particules sont là, ou alors on a zéro particule à la base. En faisant ça, on a donc généré des géométries. Et à partir de là, du coup, je vais maintenant régénérer un système de particules. Voilà, ça y est, je me le remets en tête. Le problème, c'est que vous voyez, par défaut, on va avoir des particules qui vont être générées de cette position ici et sur un seul élément. D'accord ? Sauf que cette nouvelle petite option qui est ici, qui s'appelle le Use Modifier Stack, il va regarder en fait, alors je vais ici lui dire que je veux les particules qui sont died, bon, elles sont là, voilà. Qui va regarder en fait quelle est la géométrie et quels sont les différents éléments qui composent la géométrie. Et du coup, vous voyez, maintenant chaque élément en fait va embarquer des particules derrière lui. D'accord ? Je vais augmenter du coup ce nombre de particules. Je vais en mettre 5000. Histoire d'en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc là, vous voyez maintenant qu'en fait, chaque élément qui va se trouver là va générer des particules derrière. Donc si vous avez un moment une explosion avec des débris, que chaque débris est incandescent, que chaque débris qui est incandescent émet des particules, que ces particules ensuite ne sont pas des éléments qui, comme des simples points, mais des débris qui sont constitués d'autres débris, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous faites 3-4 passes comme ça, et là vous commencez à avoir des millions et des millions d'objets, en fait, qui vont être générés de manière dynamique. D'accord ? Donc je vais lui dire par exemple ici que je veux remplacer mon objet par le cube. Voilà. Cube gros, avec des tailles différentes. Et là, vous voyez du coup que si ce n'était pas des simples cubes mais des débris, je commencerais à avoir quelque chose de très 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 complexe. D'accord ? Donc cette petite option, vous voyez, qui a été rajoutée, elle permet en fait de combler un gros manque qu'il y avait jusqu'à maintenant, qui était de dire je génère des particules qui génèrent de la géométrie, qui génèrent des particules qui génèrent de la géométrie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand il n'y avait pas ça, ben, on se retrouvait en fait avec ça. C'est-à-dire des objets qui étaient, vous voyez, générés, mais il n'y en avait qu'un seul qui émettait en fait des particules. Donc ça veut dire qu'elles étaient toutes concentrées sur un débris, sauf que maintenant, bah, du coup, on peut les emmener sur plusieurs éléments comme ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que, étant donné qu'on a un autre simulateur là-dedans qui est très rigolo, hop, qui s'appelle en fait le générateur de smoke, donc de fumée, je vais dire que ça, c'est mon smoke domain, c'est-à-dire c'est le lieu, la boîte dans laquelle va se faire la simulation, étant donné que le smoke domain doit se créer dans un espace fini, c'est-à-dire qu'on lui dit ça va de là à là, c'est dans tel cube, vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui est complètement infini. Et donc, ce que je vais lui dire à cet élément, c'est que la simulation va se passer là-dedans, et ce que je voudrais, c'est que ces particules en fait, qui sont générées par mes débris, donc comme ça, ça commence à être un peu le bazar, hein, je vais pousser ça derrière, et je vais pousser cet élément-là pour le mettre à l'intérieur du cube. Et je vais sauver. Là, je vais sauver pour deux raisons. Je vais sauver parce que j'ai la trouille à mort, parce que je sais que ça va cracher. Et je sauve aussi parce que quand vous faites une simulation de fumée, si vous ne sauvez pas en fait votre scène, il ne sait pas où mettre en fait les fichiers qu'il va stocker, qu'on appelle les fichiers de cache. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez calculer une image, il va enregistrer sur le disque dur des informations. Et si vous ne précisez pas où doit être sauvé en fait votre scène, il ne va pas savoir où les mettre. Il va les mettre par défaut dans votre fichier temporaire de votre machine, système. C'est un peu cracra, d'accord ? Et ça laisse des cochonneries partout. Donc si vous décidez d'abord de où vous allez mettre votre élément, ça va vous permettre en fait d'avoir le contrôle sur ce que vous faites. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui dire que cet élément, en fait, fait aussi partie de la simulation, mais c'est ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire qu'en fait, ces éléments vont générer la fumée. Actuellement, vous voyez que ce qui va générer la fumée, en fait, c'est le mesh, c'est-à-dire le maillage, mais moi, ce que je veux, c'est que ce soit les particules, en fait, qui génèrent la fumée. Et en faisant ça, je vais avoir, vous voyez ici, chaque élément qui va derrière lui générer en fait de la fumée. Donc vous avez des particules qui génèrent des géométries, qui génèrent des nouvelles particules, qui génèrent de la fumée. Ok ? Normalement, si je rajoute une petite lampe, non, pas aujourd'hui. Ah si, voilà. Ouais, mais pas tous les jours en fait. Ah là, bah qu'à la moitié, je suis désolé. Voilà. Il est feignasse un peu, hein. D'accord ? Donc vous voyez, ça va vous permettre en fait de rapidement faire une grosse simulation de fumée comme ça, d'accord, voilà, qui en plus repartent vers le haut. Voilà, j'essaye de pas trop pousser le détail parce que sinon la machine va peut-être avoir un peu mal aux fesses, ok. Et ce qui est très intéressant quand on fait ce genre de choses, en fait, vous verrez que c'est ce que j'ai utilisé après, faire de la simulation. Alors sachez que tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les force field, le fameux truc, vous savez, qui permet de voir les volutes, par exemple, comme ça. Hein. Hop, je vais le placer ici à l'intérieur. Je vais lui mettre encore une fois une grosse puissance, 50, 50 et 10, par exemple, comme ceci. vous allez rendre compte que les simulateurs fonctionnent aussi de cette manière-là. Donc je vais grossir sa taille, 50 par exemple. Voilà, puis je vais augmenter sa puissance. Voilà, peut-être pas autant quand même. Voilà. Ah mais 1, c'est pas assez quand même, faut pas rigoler. La size 50, très bien. Donc vous voyez, ça vous permet d'ajouter en fait des perturbations dans la simulation de fumée comme ça. Ok. Cette simulation de fumée, je vous le disais tout à l'heure, peut en plus embarquer des particules. C'est-à-dire que si vous générez des particules, vous avez un truc là-dedans qui s'appelle le smoke flow. C'est-à-dire que si vous avez des particules qui vivent dans la fumée, vos particules peuvent les emmener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment, par exemple, vous avez des voitures que vous avez dupliquées avec des systèmes de particules, parce que pour l'instant, j'ai fait que des cubes, mais vous pouvez avoir des voitures complètes, hein, d'accord? Et du coup, imaginez qu'il y a une grosse météorite qui tape, ça va générer beaucoup de fumée, et du coup, l'onde qui sera en fait simulée par la fumée va dégager les particules en même temps et les emmener. Pareil si vous faites des tornades, par exemple. Si vous faites des tornades avec les vortex, vous voyez, par exemple ici, hein, si je rajoute un gros vortex ici, voilà, et que pour l'instant je supprime celui-là. Alors ma mission du jour, c'est trouver la touche supprime. Voilà, c'est bon, j'ai réussi ma journée. Vous voyez que du coup, vous avez une espèce de tourbillon qui va se créer. Ok, à partir de là. Oups, voilà. Donc là, ça commence à partir en vrille. Hein. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, ce tourbillon que vous allez avoir peut cette fois-ci, lui après, être utilisé comme champ de force pour embarquer des trucs. C'est-à-dire que vous avez une espèce de simulation. Pause, stop, stop. Voilà. Vous avez une espèce de simulation qui va se mordre la queue, en fait. C'est-à-dire que vous avez des particules qui génèrent des géométries, qui génèrent des particules, qui génèrent de la fumée, qui embarquent d'autres particules, qui génèrent d'autres trucs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord ? Donc vous pouvez, du coup, au niveau de la mise en place de ces différents systèmes, faire des choses assez complexes. D'accord ? Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, quand vous voulez rendre ces trucs-là, notamment pour tout ce qui est fumée, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le Blender Renderer, c'est-à-dire le moteur de rendu de Blender, qui est pas très très long quand même, au vu de ce qu'il fait, mais qui ne permet pas d'avoir des détails parfois super super fins dans la fumée. D'accord ? Parfois même, quand on lance un vrai rendu avec le Blender Renderer, on se rend compte que la fumée en fait que vous voyez, enfin que vous aurez après à peu près une minute de calcul ou une minute et demie de calcul, elle vous paraît en fait moins détaillée que celle-là. D'accord ? Ou alors, vous avez la méthode qui tâche, c'est-à-dire d'utiliser pour l'instant le nouveau moteur de rendu de Blender qui s'appelle Cycles. Le problème, c'est qu'actuellement, la fumée n'est pas accélérée par la carte graphique et vous avez des temps de rendu de malade. D'accord ? C'est-à-dire que pour calculer une image de ça, j'ai fait un test chez moi l'autre jour, au bout d'une heure et demie, il n'avait pas fini et c'était crade. D'accord ? Donc, ça veut dire que pour l'instant, je ne fais pas de rendu avec ça. C'est-à-dire que j'attendrai que ce soit accéléré par la carte graphique, ce qui est peut-être prévu pour la version d'après, quoi. Donc, je suis patient. Et en attendant, j'utilise une technique d'escroc qui consiste à dire que, puisque ce rendu-là, il est chouette, à la limite, il me va bien, hein, d'accord. Et ce que je fais, c'est que j'ai une option là-dedans qui s'appelle, en fait, dans les displays, le Only Render. C'est-à-dire que c'est censé m'afficher, en fait, que ce qui sera rendu par la caméra. Alors, il y a un petit bug, c'est que parfois, alors, je vous avouerai que je ne sais pas pourquoi, genre je fais deux fois la même scène, je fais exactement la même chose, et un coup j'ai le cube, un coup j'ai pas le cube. Donc, c'est un des mystères pour l'instant. Ce petit cube-là, normalement, devrait disparaître parce que j'ai coché Only Render, c'est-à-dire que je ne devrais pas l'avoir, d'accord ? Et vous avez une option sympatoche, en fait, dans Blender qui permet de prendre des photos de ce que vous voyez, en fait, d'accord ? Donc, si vous vous dites que, alors je vais créer une caméra pour indiquer quand même mon axe de vision. Attendez, attendez. Ouais ! Ah ! Ah oui ! Ah oui ! Alors, view, caméra, active caméra. Voilà. On va se la faire comme ça, parce que si je cherche le raccourci, j'ai pas fini, hein. Voilà. Donc, au bout d'un moment, la caméra devient aveugle. C'est normal parce que, en fait, dans une caméra en 3D, vous avez la notion de ce qu'on appelle le near clipping et le far clipping. Retenez-les bien pour frimer en soirée, c'est sympa comme terme. Donc, le near clipping, c'est quoi ? C'est je vois de tel endroit. À far clipping, c'est à tel endroit. Donc, actuellement, il est aveugle au bout de 100 mètres. Donc, vous allez lui dire qu'en fait, non, vous voulez qu'il soit aveugle au bout de 1000 mètres, par exemple. Et puis, vous verrez, vous voyez, la fumée qui va être beaucoup plus visible, beaucoup plus loin. Okay. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir maintenant la possibilité de lui dire que cette image-là, vous voulez en faire un instantané. Donc, vous voyez, ça va vous faire ça. D'accord. Et alors, vous voyez, là, il y a le cube. Hein. C'est pour ça que c'est pas super. Il y a le fameux bug, mais vous allez voir que j'ai réussi à en sortir une sans le bug. Et ce que je vais faire à partir de là, c'est que je vais lui dire qu'en plus de ça, pour être doublement escroc, je vais lui dire que j'aimerais bien en fait la voir sur un fond transparent. C'est-à-dire que si en plus il peut me dire là où il y a quelque chose, là où c'est transparent ou là où c'est pas transparent. Et donc en cliquant là-dessus, regardez bien l'espèce de nappe à carreaux qui se trouve derrière, là comme ça, va représenter en fait les fonds transparents, c'est-à-dire les éléments que je vais pouvoir effacer au moment du compositing quand je vais superposer ces deux éléments. D'accord ? Vous pouvez voir que même si je sélectionne une image Full HD, c'est fini. Donc ça a mis à peu près 2 secondes à calculer. Là, j'ai calculé une seule image, mais si je lui dis par exemple que dans la partie output ici, c'est-à-dire là où je veux enregistrer mes images, je veux l'enregistrer par exemple sous des images PNG ou TIFF ou ce genre de choses, et que je clique non pas ici sur le petit appareil photo, mais sur le petit clap que vous avez là, en fait, il va vous rendre toutes les images qui sont définies entre cette première image et cette deuxième image, d'accord ? Et il va vous les rendre, il va vous les enregistrer sur le disque dur au fur et à mesure. OK ? Donc ça, ça vous permet très très rapidement de sortir des passes de fumée, de volutes, de choses comme ça. C'est pas la meilleure méthode du monde d'un point de vue qualitatif, mais si à un moment il faut speeder, ça marche. Croyez-moi, pour l'utiliser tous les jours, ça marche. D'accord. Donc, voilà pour la partie dynamique. Il y a bien sûr d'autres fonctions, mais je pense que celle-là, c'est les fonctions de base en tout cas qui permettent de très rapidement générer des animations très très complexes. D'accord. Avant de passer à la partie Nightrun, il reste 3 minutes si vous avez des questions, peut-être. Oui.
Et, tout à l'heure, quand tu as montré avec deux cubes, tu as des particules qui. Tu as deux systèmes de particules, chaque particule trouve sa sœur et du coup elle vient d'un objet à l'autre.
Ouais.
Est-ce que c'est possible de faire un set fracture sur chaque objet et que chaque particule prenne la forme de sa particule sœur pour avoir.
Oui, tu peux le faire. Là où tu vas peut-être avoir moins de contrôle, c'est si tu veux reconstituer en fait avec des fragments un autre objet de l'autre côté, tu vois. Ça va parfois être compliqué dans la mesure où il faut qu'il s'imbrique correctement, tu vois. Quitte à utiliser des méthodes d'escroc, ce que je ferais dans ces cas-là, c'est qu'en fait, je partirais de l'objet de destination, mais je considérerais que c'est l'objet source. Je vais l'exploser. Et en fait, je vais jouer l'animation à l'envers. Et du coup, je vais faire une espèce de raccord entre le départ et l'arrivée, tu vois. Donc, si tu as deux plans, tu ne te poses pas la question. Et parce que tu peux contrôler au moins, si tu veux, la forme de départ et la dislocation, c'est pas très français, de la forme de départ. Tu peux choisir aussi si les particules vont être projetées vers l'extérieur avant de revenir ou ce genre de choses. Donc là, tu auras un max de contrôle. Par contre, à l'arrivée, ça va être compliqué. Il y a un add-on qui est sorti pour Blender, je ne me souviens plus du nom, ça s'appelle Particle Morphing, peut-être un truc comme ça, qui te permet d'avoir un contrôle sur ce que tu as à l'arrivée. Le truc, c'est que ça ne marche que pour l'extérieur de la surface, donc la partie très fine de l'objet. Il va essayer en fait, de bouger des polygones et de les replacer au bon endroit de l'autre côté et faire une espèce de fondu au niveau des textures. Le problème, c'est que si tu essayes de simuler un volume, comme on l'a vu tout à l'heure avec des particules qui se trouvent à l'intérieur, ça va être déjà un peu plus compliqué, quoi. Donc, si je devais le faire, je le ferais à l'envers. C'est-à-dire que je partirais, si tu veux, de la phase de l'objet sur lequel tu veux finir, considérer que c'est l'objet de départ, disloquer l'objet de départ et faire l'animal à l'envers. Voilà. Je pense que c'est, tu te prendras beaucoup moins la tête en faisant ça, en fait. Une autre question, peut-être ? Oui ?
Pour continuer sur la même question, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en deux fois ? On explose les deux objets d'un coup l'un à l'envers et on fait la jonction au milieu.
On peut parce que, en fait, si tu veux, là, je vous ai montré la partie. Hop. Je vais y arriver. Hop. Là, si tu veux, je t'ai montré la partie avec simplement un point A, un point B, entre guillemets. D'accord ? Mais en fait, tu peux avoir une multitude d'étapes intermédiaires. Quand tu fais du CADE, en fait, tu vois, tu peux rajouter en fait autant d'interpes intermédiaires que tu veux. Donc, tu peux lui dire tu vas de telle forme à telle forme, puis de telle forme à telle forme, puis de telle forme à telle forme. Tu peux définir si tu as des temps de pause entre les deux formes ou ce genre de choses, tu vois. Bon, après, la manière dont ça fonctionne après en dessous, entre le time et le duration, parfois, c'est un peu compliqué à mettre en place, si tu veux, mentalement. Donc, si tu as la possibilité de couper ton plan en deux et de faire les deux destructions séparément, c'est plus facile. Mais oui, tu peux avoir effectivement les deux éléments, si tu veux, qui vont se concaténer au milieu. Tu peux aussi avoir, par exemple, deux éléments qui vont s'exploser et puisse rassembler au milieu. Voilà. Alors, tu fais ça avec ou deux systèmes de particules distinctes, ou alors, tu peux carrément te dire que ton système de particules que tu as ici, par exemple, tu vois, regarde, le Newtonian, en fait, donc, qui détermine l'animation selon les lois de la physique, tu vas te dire qu'en fait, cet objet-là que tu as ici, eh ben, en fait, tu vas créer un deuxième objet, mais en fait, c'est un sous-objet. C'est-à-dire que ces deux objets, maintenant, font partie du même objet, tu vois. Et du coup, les particules sortent des deux. Donc, si à un moment, par exemple, tu as, je ne sais pas moi, une sphère de ce côté-là, donc on peut le voir ici dans la liste qui se trouve en haut à droite, et puis un singe de ce côté-là, et tu as envie, par exemple, que ces deux se désagrègent pour former une seule forme, ben, en fait, la meilleure solution, c'est de se dire que ces deux éléments, tu vois, par exemple, ici, il y a deux éléments, hop, excuse-moi, voilà, tu n'en as plus qu'un, en fait. Je vais l'appeler fusion, par exemple. Voilà. Et si maintenant, ces deux éléments qui sont ici, tu as envie, en fait, de faire un troisième élément que tu vas trouver là. Voilà. Et sur lequel tu vas générer un autre système de particules avec le CADE. Alors non, excuse-moi, avec le no-physique celui-là, parce que c'est le, en fait, c'est le système de particules de destination, c'est le modèle hein, vers lequel il va. Voilà, je vais le mettre en statique. Ou on s'en fiche, à la limite, c'est pas très très grave. Et celui-là, justement, tu vas lui dire, t'as un système de particules, il est en CADE, il part d'une autre, et il va vers un autre système, qui est le système du torus. Dans ces cas-là, visuellement, en fait, tu as deux objets, mais deux objets, tu vois, en fait, qui partagent le même système. Donc, du coup, tu as éclaté deux objets. Tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant ici de mettre les trucs en died. Voilà. Tu vois, tu as deux objets, en fait, qui se sont disloqués et qui se sont rassemblés pour former un seul et même objet. Voilà. Là aussi, c'est pareil. Si à un moment, si tu veux, tu as des fragments qui se mettent dedans, mais hein, tu vois, tu voudrais que ce soit nickel. Dans ces cas-là, la meilleure solution, c'est d'essayer de ne pas se prendre la tête, essayer de mettre les fragments bien comme il faut. Tu calcules une passe avec les fragments qui se rentrent un peu dedans. Tu calcules exactement la même séquence avec la forme d'origine, qui est nickel, sans les fragments. Et c'est au moment du compositing où tu vas mélanger les deux séquences, tu vas faire en fait des espèces de fondus locaux, tu vois, qui vont te permettre de faire disparaître les segments. Voilà. Ce sera, à mon sens, la meilleure solution. Et en plus de ça, plutôt que de faire des fondus bêtes et méchants, tu vas peut-être pouvoir faire des espèces de déformations locales qui vont te donner l'impression que ça se fusionne ou ce genre de choses. Il y a des techniques pour le faire comme ça, de manière quasi automatique. En faisant des flous, de la détection de contours, des trucs comme ça, tu peux avoir ça. Donc, ça commence à être un peu touchy, mais tu passes moins de temps à faire ça que d'essayer de mettre les fragments dans le bon sens. J'ai répondu à ta question ? Ok ? Super. Eh bien, on va passer maintenant à la partie Neutron. Hop. Merci à vous.